Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir. Nous allons terminer une étude que nous avons commencée il y a 15 jours. Cette étude, c'est sur Marc chapitre 13 et nous sommes en train d'étudier, de regarder ce que Jésus a enseigné concernant la chute de Jérusalem quand les Romains sont venus l'année 70 entourer la ville et prendre en captivité les Juifs qui étaient dans la ville. Nous nous souvenons que Jésus a déjà pleuré pour Jérusalem. Il a fait cela le jour de son entrée, quand il était acclamé roi. Il a parlé de ce jugement qui allait venir contre ceux qui étaient incrédules. Et ici, Jésus va agir comme prophète pour parler de comment éviter une punition et comment aussi vivre sans souci dans ces moments qui allaient venir, ces tribulations qui allaient tomber sur la ville de Jérusalem. Juste pour vous rappeler, c'était l'année 66 que les armées de Rome ont marché contre Jérusalem, arrivé à la ville même et ont entouré la ville après plusieurs victoires contre les Juifs. Le général des légions romaines décide de ne pas continuer le siège de Jérusalem et de rentrer chez lui. Cela s'est passé en 66. Pendant sa retraite, donc, de territoire de Palestine, il a été attaqué plusieurs fois par des armées juives, et puis les Juifs ont apporté une grande victoire contre les Romains. Nous voyons qu'après, c'était donc les armées qui sont revenues. Finalement, le travail était achevé par un certain Titus, et là, vous voyez effectivement l'arche de Titus qui se trouve à Rome. Et là, vous voyez ce qui s'est passé après un siège qui était assez bref, hein, qui n'a pas duré très longtemps. Et là, vous voyez que effectivement, il y a les Juifs qui vont partir en captivité. Et finalement, les choses du temple qui ont été prises, le temple qui a été saccagé et le temple qui finalement a brûlé, qui n'était pas la volonté de Titus à l'époque, il voulait pas que cela se passe. Titus qui va devenir donc empereur de Rome et qui ne durera qu'un petit moment. Et il y en a qui pensent c'est parce que Dieu il a utilisé comme outil pour juger son peuple, mais que Dieu parfois il juge les outils et comme il a fait avec Babylone et d'autres qui avaient pris donc Jérusalem dans le passé. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous regardons aujourd'hui juste la fin de ce chapitre. Nous nous souvenons que les disciples ont posé la question, spécifiquement les quatre les plus proches de Jésus, quand est-ce que cela va se passer? Quels seront les signes de la fin de cette époque ou de la fin de toutes ces choses? Et là, nous allons juste commencer avec les versets 21 et suivants. Notons bien, Jésus agit comme prophète ici. Il prend le rôle de prophète, un Ésaïe ou un Jérémie, ou finalement un Ézéchiel, et il lance cet appel de repentance au peuple. Le verset 21 dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout prédit. Je vous ai tout prédit. Nous avons vu déjà qu'il y avait 61 différentes personnes qui se sont déclarées messie dans les années autour de Christ. Et ici, nous voyons que Jésus continue en disant qu'il y en a qui vont venir et qui vont faire des signes, opérer des signes et des prodiges avec le but d'égarer les élus, c'est-à-dire ceux qui avaient mis leur foi en Christ. Je crois que là, il est en train de parler des Juifs qui acceptent la parole du Christ, qui acceptent cet évangile, qui ont été baptisés par lui, et qu'il y aurait des gens qui vont venir avec le nom du Messie pour égarer le peuple. Jésus dit donc, soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. La question qui se pose, est-ce que ces gens allaient faire de vrais miracles, des miracles qui correspondent au miracle de Jésus, ou comme nous avons lu aujourd'hui dans les Actes chapitre 5, les miracles spectaculaires de l'apôtre Pierre dans la ville de Jérusalem. Une des difficultés que j'ai avec ce passage, c'est le fait que les apôtres on parlait souvent du fait que leurs signes montraient, les miracles qu'ils faisaient étaient des signes que le royaume de Dieu était venu et qui étaient des miracles qui affirmaient leur message. Vous vous souvenez de cela, par exemple, dans les Hébreux chapitre 1, qui dit que ce message a été confirmé par les miracles qui avaient fait les apôtres. Nous nous souvenons aussi que Jésus lui-même a dit aux pharisiens qui ne croyaient pas en lui, « Si vous ne croyez pas à mes paroles que je suis, croyez à cause des signes que je vous ai donnés, à cause des miracles qu'on avait donnés. » Et nous voyons que, par exemple, quand Pierre et Jean ont guéri le paralytique dans les Actes chapitre 3, que les dirigeants des Juifs ne pouvaient pas contredire le fait que cet homme avait été guéri, et donc ils ne pouvaient pas contredire Pierre et Jean dans leur témoignage. Je crois, et peut-être à tort, mais c'est là je vous dis ce que je crois, qu'il y a des messies qui sont venus faire des prodiges, mais qui étaient des faux prodiges, qui étaient des faux miracles. C'était pour séduire le peuple, et ce n'était pas de vraies guérisons. Aujourd'hui, vous voyez cela, ou vous entendez cela, des gens qui enlèvent des tumeurs du corps avec leurs mains comme cela, ou qui vous font cracher toutes sortes de choses qui sont des maladies à l'intérieur de vous, et vous dites que vous êtes guéri. En tout cas, je crois que si ces personnes faisaient de vrais miracles, comment est-ce qu'on saurait si leur message venait de Dieu ou pas? Bon, on pourrait dire, dans l'Ancien Testament, il y avait une condition qu'un prophète ne devait seulement pouvoir dire l'avenir avec exactitude, mais ne devait jamais égarer le peuple de Dieu. Et donc peut-être, si ce sont des gens qui font de vrais signes, donc peut-être il fallait plutôt écouter le message pour savoir si ça correspondait à l'Évangile. En tout cas, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Et c'est ceci que Jésus dit, c'est la seule manière de ne pas s'égarer. Vous pouvez imaginer que les armées de Rome viennent à Jérusalem. On cherche le salut. Et quelqu'un vient pour dire, je vais délivrer le peuple. Et peut-être il fait un miracle. Faux ou vrai. Mais ça semble être véridique. Il fait un miracle et vous dites, s'il peut faire cela, je peux mettre ma confiance en lui. Jésus dit, attention, attention. Il faut mettre sa confiance seulement dans le Christ. Bon, quels sont les faux messies d'aujourd'hui? C'est pas très souvent des gens qui promettent de nous guérir, mais ça peut être notre connaissance. On va se sauver par notre technologie, par la science, par notre esprit optimiste, par notre gouvernement, par nos armées, par notre propre force, par notre propre intelligence. On va se sauver nous-mêmes. Bon, attention à toutes ces choses qui promettent de vous sauver, mais c'est vraiment le Christ Jésus qui est le seul qui puisse faire cela. Les versets 24 à 25. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissants qui sont dans les cieux seront ébranlés. Dans ces jours, quand les faux messies viennent. Okay? Et comme je vous ai dit, 61 faux messies sont venus avant et après Jésus. Dans ces jours est considéré par certains comme une phrase de transition. Maintenant, je vais vous parler de la fin des temps. Je vais vous parler de ce moment où Jésus va revenir, ressusciter et juger. Donc, c'est des gens qui pensent que dans ces jours veut dire cela. Après cette tribulation, donc, parle d'une suite. Et il y a certaines personnes qui pensent que Jésus parle de la fin du monde. Donc, après l'année 2000, évidemment. Après la destruction de Jérusalem. Donc, 2000 ans après, peut-être on est en train de dire, Jésus est en train de dire, maintenant, après avoir parlé de la destruction de Jérusalem, je veux vous parler de la fin du monde. Mais ce que nous devons voir ici, quand nous regardons ce qui s'est passé, c'est que l'année 70, c'est la fin de Jérusalem. L'année 73, c'est la fin de la rébellion juive. Et là, on marque avec cet événement tragique dont vous vous souvenez, c'est le suicide de 900 juifs à Masada qui a terminé donc la révolte des juifs pour cette fois-ci contre Rome. Ce qui est important à voir, c'est que d'abord, il dit dans ces jours. Alors, quel jour, de quel jour il parle? Il dit, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et ça semble être très clairement la fin du monde. Parce que le soleil continue à briller, les étoiles sont toujours là. Nous avons toujours tout ce qui est nécessaire pour planter, pour récolter et tout. Donc évidemment, ici, nous parlons de quelque chose qui va se passer à la fin des temps. Mais attention, vous regardez ici, c'est une citation de l'Ancien Testament. Et regardez, c'est une citation d'Ézéchiel, chapitre 32, les versets 7 à 8. Je cite la Taube. « Lorsque ta lumière sera éteinte, je couvrirai les cieux. » Et j'obscurcirai les étoiles. Je couvrirai le soleil d'une nuée, et la lune ne laissera pas luire sa lumière. Tous les luminaires des cieux, je les obscurcirai à cause de toi. Je mettrai des ténèbres sur ton pays. Oracle du Seigneur Dieu. Bon, évidemment, on parle de quoi? Bon, on parle de la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il dit, il va couvrir les cieux, il va obscurcir les étoiles, les luminaires des cieux seront éteints. Mais vous savez à qui Dieu parle à travers Ézéchiel ici? Il parle ici de la destruction de l'Égypte. Il parle du fait que les armées de Babylone allaient contre l'Égypte pour les détruire. Et donc, on lit ce passage qui est une punition de Dieu spécifique pour l'Égypte et on voit le même vocabulaire. J'obscurcirai les étoiles, je couvrirai les cieux et les luminaires vont arrêter de briller. Et cela, c'est pour l'Égypte. Dans un sens, c'est la lumière est terminée. En anglais, on dirait lights out. Donc, on va éteindre les lumières sur l'Égypte. Dieu termine avec ce peuple et sa rébellion. Je vous donne un autre exemple pour voir cela. Là, j'ai choisi un passage d'Ésaïe chapitre 13, les versets 9 à 10. Voici que vient le jour du Seigneur. Donc, jour du Seigneur, ça veut dire un jour de jugement. Implacable est le débordement d'une ardente colère qui va réduire le pays à la désolation et en exterminer les pécheurs. Les étoiles du ciel et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Dès son lever, le soleil sera obscur et la lune ne donnera plus sa clarté. Bon, là, c'est évident, n'est-ce pas? On parle de quoi? On parle de la fin du monde. C'est le soleil qui arrête de briller, les étoiles qui ne seront plus. Mais quand on va dans Ésaïe chapitre 13, comme vous avez fait, on voit quoi? On voit que c'est la destruction de Babylone qui est prédite par le prophète Ésaïe. Bon, ça veut dire que c'est fini pour Babylone. Un jugement viendra contre Babylone, mais on a l'impression que c'est la fin du monde. Les étoiles du ciel et les constellations ne feront plus briller leur lumière. Bon, une dernière fois, je sois que c'est un peu difficile peut-être à suivre, mais je veux que ce soit très clair ici. Regardez Ésaïe chapitre 34, le verset 4. De nouveau, c'est la tome. Toute l'armée des astres des cieux se décomposera. Les cieux seront roulés comme un document. Et toute leur armée tombera comme tombent les feuilles de la vigne et celles du figuier. Waouh, ça c'est complet, hein? Il dit toutes les étoiles, il dit les armées célestes, c'est-à-dire les astres, les cieux vont être roulés comme un document, c'est-à-dire comme un rouleau. Donc évidemment, là il parle de la fin du monde, n'est-ce pas? Bon, si vous avez ouvert vos Bibles à Ésaïe, chapitre 34, vous voyez que c'est pas ça, c'est la destruction d'Édom. Donc, est-ce que vous commencez à voir ce qui se passe ici? Quand Jésus parle de la destruction de Jérusalem par les Romains, il va aller dans l'Ancien Testament et prend le vocabulaire des prophètes, parce qu'il agit autant que prophète, et il va parler du fait que quelque chose de grandiose va se passer, quelque chose de terrible va se passer, c'est une punition. Et pour illustrer cela, il parle de ces luminaires qui vont s'éteindre. Alors, revenons très vite à quelque chose qui est, je veux que ce soit tout à fait clair. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur va juger. Le Seigneur, donc, va ressusciter, il va juger. Il va donner la vie éternelle à tous les enfants de Dieu par Christ Jésus. C'est ça qu'il va faire. Et il va punir le mal. Mais je veux juste vous montrer qu'ici, que Jésus reprend un vocabulaire de l'Ancien Testament qui parle de quelque chose de spécifique, une punition contre Jérusalem, incrédule. Et il utilise ces signes des cieux pour montrer que comme Dieu a jugé l'Égypte, comme Dieu a jugé le Babylone, et comme Dieu a jugé l'Édom, il va aussi juger ceux qui n'ont pas accepté le Christ. Juste pour voir, c'est un langage de jugement divin, dit Max Stoner dans son commentaire sur Luc 21. Un langage de jugement divin, un jugement qui cherche à renverser les injustices. Les étoiles n'allaient pas cesser de briller littéralement. Mais c'est un langage prophétique qui dit que c'est Dieu à l'œuvre. Pour les punis, Dieu obscurcit leur soleil. Il fait disparaître leur ciel et renverse les étoiles. C'est vraiment ce qu'il va faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. L'idée fondamentale ici, c'est des signes dans les cieux et sur la terre communiquent la réaction de la création au Créateur qui entre dans son monde en jugement. Les éléments de la création sont remplis de confusion et de peur parce qu'il apparaît et non parce qu'il va apparaître. Les éléments manifestent la gloire de Dieu. Et ça, c'est Busy Murray, théologien baptiste, qui écrit de ce thème. Donc, les théologiens appellent cela une théophanie, c'est-à-dire Dieu se manifeste et la création est basculée. Bon, la suite. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Venir sur les nuées. De nouveau, Jésus reprend un vocabulaire de l'Ancien Testament. Le psaume 18, les versets 10 à 11. Dieu déplia les cieux et descendit un épais nuage sous les pieds. Sur le char du chérubin, il s'envola, planant sur les ailes du vent. Quand Dieu vient en jugement, il vient sur les nuées. Il vient dans un chariot de guerre pour juger les ennemis de son peuple. Et donc, quand on parle de Dieu qui vient dans les cieux et Dieu qui vient sur les nuées, on est en train de parler d'un jugement que Dieu va effectuer. On peut voir la même chose dans Ésaïe chapitre 19, le verset 1. Tenez-vous avec moi, ok? Ésaïe 19, le verset 1. Proclamation sur l'Égypte. C'est Dieu qui parle. Voici, le Seigneur monte sur un nuage rapide. Il vient en Égypte. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le courage de l'Égypte fond dans ses entrailles. Notons bien, quand Dieu vient en jugement, il dit clairement ici, il vient sur un nuage rapide. Ça, c'est une théophanie. C'est Dieu qui se manifeste dans ce langage pour dire il se manifeste pour venir en jugement contre l'Égypte. Ok, ma question pour vous, c'est assez clair. Est-ce que Dieu, quand il a jugé l'Égypte, est-ce qu'il est venu sur une nuée pour le juger? Littéralement. Ben non, Dieu n'a pas besoin de nuée pour se déplacer. Il n'a pas besoin de chariot pour se déplacer. Il se déplace comme il désire. Mais c'est l'image ici que nous avons de celui qui vient en jugement. Juste une autre chose, Daniel chapitre 7, pour vous montrer que ce n'est pas dans un seul endroit. C'est fascinant, hein, comment Jésus utilise les prophètes de l'Ancien Testament pour communiquer ses messages à ses disciples, qui connaissaient bien les prophètes. Ils connaissent bien. Daniel 7, 13. « Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. » Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples des nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Daniel prédit ici l'avènement du Messie, de Jésus. Il sera le Fils de l'homme qui arrive sur des nuées des cieux pour recevoir le pouvoir au-dessus de toute chose. C'est pour cela, quand Jésus était devant le Sanhédrin et il parle de qui il est, bon, ici dans Marc chapitre 14, le verset 62, Jésus répondit, « Je suis le Christ, je suis le Messie. » et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Il est en train de citer Daniel chapitre 7 pour dire que maintenant il peut exercer le jugement contre les ennemis du peuple de Dieu. Okay? C'est-à-dire entre ceux qui refusent. Jésus a dit la même chose dans Marc chapitre 9, on l'a étudié. Après sa transfiguration, il a dit à ses trois disciples, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. C'est-à-dire, ce royaume vient avec jugement. Ce royaume vient où le Messie allait exercer son pouvoir seulement. Donc Jésus reprend toutes ces différentes choses pour dire qu'il va venir en jugement contre ceux qui n'acceptent pas. Le verset 27. Alors, il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Alors, les élus ici, ce sont les Juifs qui ont mis leur confiance dans le Messie. Si le danger est imminent, c'est que la destruction de Jérusalem va venir. Mais Jésus désire le salut de ses disciples. Donc, il est en train de les avertir. Il a déjà dit, vous vous souvenez avant dans notre texte, que quand il voit l'abomination dans l'endroit où il ne doit pas être, qu'il faut quitter la ville. Et nous avons vu que l'année 66, quand les Romains ont entouré la ville avec tous leurs idoles, avec leurs... Et puis après, ils se sont retirés. Il y a Joseph qui dit, alors, beaucoup de Juifs ont quitté la ville rapidement pour se sauver. Et comme vous savez, les historiens de l'Église, donc au 4e siècle, parlent de ces chrétiens qui se sont fuis à un endroit qui s'appelle Pella, à la montagne. Donc les chrétiens qui se sont sauvés parce qu'ils ont prêté attention à Jésus. Des chrétiens juifs, évidemment, ceux qui avaient mis leur foi en Christ. Luc nous donne la signification de l'image. C'est-à-dire les anges qui rassemblent les élus des quatre vents. Luc dit ceci quand il parle de cela en citant Jésus. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. L'idée d'envoyer les anges pour chercher les élus, c'est l'idée de sauver ceux qui prêtent attention aux signes. Et donc Luc nous dit que, attention, on sait que la délivrance de la persécution arrivera. Dieu va terminer avec ce qui se passe à Jérusalem et il y aura donc sa justice qui sera faite. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que cela va arriver? Bon, notons bien ce que Jésus dit. Donc au verset 28, recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le figuier nous fait penser au miracle de Jésus qu'il a fait juste quelques chapitres avant. Avant d'entrer dans le temple, il a maudit un figuier. Et il va dans le temple et il voit comment la religion dans le temple était pourrie. Pas à cause des peuples simples qui voulaient rencontrer Dieu là, mais à cause des autorités constamment en rébellion contre Dieu. Jésus attend que ses disciples reconnaissent les signes, qu'ils voient que cette destruction venait. Et Eusèbe, dans son histoire de l'Église, a écrit que les chrétiens étaient partis pour les montagnes à Pella, spécifiquement pour se sauver des armées romaines, parce qu'ils ont pu reconnaître les signes de l'époque. Jésus finit en disant, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Génération veut dire peuple, parfois, comme le peuple juif, c'est cette génération. Cette génération veut dire la génération qui sera vivante quand Israël sera rétabli. C'est ça que disent certaines personnes. Donc, quand Israël était rétabli en 1947, donc que le Christ reviendrait avant qu'une génération passe. Et juste pour vous sachiez, une génération est considérée de 40 ans dans les Écritures. Dans la plupart des livres qui sont écrits dans les années 60, quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces différentes choses, ils ont dit donc que ça allait se passer avant 1987, 1987. Les livres le décrivaient clairement, disaient cela. Depuis ce moment-là, bien sûr, on dit plus 1987 parce que Jésus n'est pas revenu, malheureusement, en 1987, il n'est pas revenu. Et donc, on a redéfini ce que c'est qu'une génération. Une génération est 100 ans maintenant pour plusieurs personnes. Mais dans les Écritures, ça, on ne voit pas. Ça n'existe pas. Mais si on regarde Jésus qui dit, je vous le dis, donc à ses quatre disciples, je vous le dis, cette génération, c'est-à-dire cette génération de Juifs qui sont là, cette génération, vous, mes disciples, ne passera point que tout cela n'arrive. Jésus parle de quelque chose qui va se passer prochainement. Si Jésus raconte cela, disons vers l'année 30, si la destruction de Jérusalem, comme nous savons, a eu lieu l'année 70, nous sommes vraiment dans cette idée de génération qui n'est pas encore passée, que cela arrive, 40 ans. Voyez un peu plus ce que Jésus dit dans Marc chapitre 8, le verset 12, quand il parle de génération. Jésus soupira profondément en son esprit et dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Il est en train de parler de ceux qui sont là, ceux qui écoutent son message, mais qui ont un cœur dur. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 8, 38. Donc quand Jésus parle de cette génération, il est en train de parler de ses frères juifs qui n'étaient pas attentifs à son message et qui l'ont refusé. Juste pour finir avec cette idée, dans Marc 9, 19, Jésus dit race incrédule. Ça veut dire le mot génération incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? 9, 19, on a déjà lu. Génération donc signifie les contemporains de Jésus, utilisés principalement quand Jésus leur adresse en critique, quand il dit génération. Voilà, 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le but ici n'est pas de parler d'une dissolution éventuelle du ciel et la terre, même si cela est une possibilité quand nous lisons les Écritures et on comprend quand Jésus reviendra, mais c'est plutôt pour assurer les apôtres que ce que Jésus a prononcé aura lieu. Il n'y a rien qui va empêcher que ce jugement vienne. C'est comme Dieu dans l'Ancien Testament, il fait appel à la terre et à la mer d'être ses témoins des jugements qu'il prononce. De la même façon, c'est ce qui se passe là. Pour ce qui est du jour ou l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand sera le moment. Bon, si on peut reconnaître les signes que cela va se passer, comme le figuier qui vient, on ne peut pas décrire ou prédire le moment de la fin. N'oubliez pas que les chrétiens, comme j'ai dit, ont quitté Jérusalem 4 ans avant sa chute. 4 ans. Donc ce n'était pas le jour près. Mais ils étaient pressés parce que Jésus a dit, quand vous voyez cela, n'entrez pas dans vos maisons. Allez directement dans les montagnes. La solution est simple, veillez et prêtez attention aux paroles de Christ. Tout cela nous sert donc de témoignage, de bien écouter le Christ. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ce que je vous dis aux disciples, je dis à tous. C'est-à-dire ceux qui sont en dehors des quatre qui écoutent son message. Il dit veillez. Bon, comment est-ce qu'ils pouvaient se préparer pour l'avènement du Christ? Bon, Jésus raconte des paraboles dans Matthieu 25 qui parlent de ce besoin d'être prêt quand il revient, d'accomplir le ministère. Pour les apôtres, c'était d'accomplir fidèlement le ministère que Jésus leur a donné. C'est comme cela qu'ils allaient être prêts pour cela. Pour nous, pour préparer, c'est d'être vigilants sur nos comportements, d'être vigilant sur notre foi, c'est d'être vigilant de persévérer jusqu'à la fin, parce que Jésus, il reviendra. comme exhortation finale, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais Brady, si tu penses vraiment sur ça, ce passage ne nous dit rien. Et je dis, au contraire, au contraire. Jésus est un prophète par excellence. Tout ce qu'il a dit est arrivé. Et si tel est le cas de Jésus, toutes les autres choses qu'il a dit, au niveau de jugement et de résurrection, toutes ces choses vont se passer comme il a dit. Ne devons pas oublier les instructions de Jésus. Veillez, priez, prêtez attention à la séduction. Ne pas craindre, prendre garde à soi-même. Nous vivons dans une génération aujourd'hui où ces paroles sont applicables, où il faut veiller. Il y a tellement de messages que nous entendons aujourd'hui qui essaient de nous séduire. Mais nous devons prêter attention à ce que Jésus a dit. Aux paroles de Jésus, il faut prêter attention à ça et partager ces paroles avec nos amis. Comme le jugement est tombé sur Jérusalem incrédule, de la même façon, le Christ reviendra pour ressusciter les morts, pour juger le monde. Est-ce que nous serons prêts? Est-ce que nos amis seront prêts? Et donc, quand les occasions se présentent, nous partageons notre foi. Nous partageons le fait que nous ne sommes pas seulement des êtres matériels, mais nous sommes spirituels. Et qu'il y a un jour une vie qui continue dans la résurrection avec le Christ. Et ça, c'est le message que nous apportons aux autres. C'est comme Pierre a dit, ayez, défendez la raison de l'espérance que vous avez. Et même si ce passage ne parle pas de la fin du monde futur, le monde finira un jour. Ce monde, comme nous vivons maintenant, finira. Le monde sera racheté. Le monde sera changé. Les êtres humains aussi. Il y en a qui vont ressusciter à la vie éternelle, d'autres à la mort. Et nous devons mettre toute notre confiance en celui qui est éternel. C'est le message que nous apprenons aussi pour nous aujourd'hui. Je vous remercie de votre patience en regardant ces différentes choses. Mais c'est fascinant ce que Jésus partage et l'exactitude de toutes les choses qu'il a dit en parlant du fait qu'il va revenir et juger les nations. Vous vous souvenez? Quand les disciples sont jetés en prison, ils quittent la prison et ils se réunissent pour prier. Et ils prient le psaume qui parle des nations qui s'agitent contre Dieu et son autorité. Et Jésus, dans ce passage, montre clairement qu'il est le roi, qui vient pour régner et qu'il a reçu toute autorité et tout pouvoir pour le faire. Et ça, c'est la fin.